en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Le vendredi 21 septembre 2007 s'est tenu à l'Institut de France un colloque de l'Académie des sciences morales et politiques sur l'évolution créatrice de Henri Bergson, œuvre dont on fête en 2007 le centenaire de la parution. Le célèbre philosophe, professeur au Collège de France, qui reçut le prix Nobel de littérature en 1927, fut membre de l'Académie française à partir de 1914 et membre de l'Académie des sciences morales et politiques dans la section philosophie. Denis Duboul, membre de l'Académie des sciences depuis 2005, a prononcé une communication intitulée « L'état des connaissances biologiques 100 ans après la parution de l'évolution créatrice ». Le biologiste Denis Duboul, actuellement professeur à l'Université de Genève au département de zoologie et de biologie animale, est un pionnier de l'analyse moléculaire du développement embryonnaire des vertébrés. Les recherches de Denis Duboul se situent dans le domaine de la biologie du développement, en interface avec la génétique humaine et les sciences de l'évolution. Il a reçu de très nombreux prix et distinctions, parmi elles le prix de la Fondation Marcel Benoît, prix suisse en 2003, et le prix Charles-Léopold Mayer de l'Académie des sciences en 2004 à Paris. Canal Académie vous propose d'entendre la retransmission de sa communication intitulée « L'état des connaissances biologiques 100 ans après la parution de l'évolution créatrice ». Retrouvons-le en grande salle des séances.
J'étais très ravi d'entendre mon collègue Debru parler d'Émile Guyenot, bien sûr, de sa venue à Genève, qui suivait de peu celle de Karl Vogt, un autre émigré allemand qui fuyait la révolution allemande et qui était un élève de Ernst Haeckel, dont on a beaucoup parlé précédemment. Heureux car c'était deux prédécesseurs à la direction de l'Institut de zoologie que j'ai la chance de diriger aujourd'hui. Et je pensais ce matin que si les conditions de le statut des fonctionnaires de la ville de Genève à cette époque avaient été différentes, peut-être que la famille Bergson aurait eu la chance de fréquenter ces deux personnes. Le conservatoire se trouvant juste en face, comme vous le savez peut-être, de l'Institut de zoologie de la vieille université de Calvin. Voilà, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité à ce colloque bien intéressant. Je dois vous dire que j'y suis heureux d'y participer, comme à chaque fois que je me retrouve dans un milieu pour lequel je suis peu adapté pour parler un langage d'évolution, celui de la philosophie aujourd'hui. Et c'est une tâche bien difficile pour moi de vous parler des découvertes récentes, des avancées récentes de la biologie dans le domaine de l'évolution et du développement, dans le contexte de cette évolution créatrice de ce livre magnifique d'Henri Bergson. Alors laissez-moi peut-être revenir quelques minutes à la structure de la théorie de l'évolution. Et j'aimerais mentionner en passant un livre très intéressant qui a été publié récemment, qui est un livre posthume de Stephen G. Gould qui s'appelle « La structure de la théorie de l'évolution ». Un livre très épais et peut-être pas très bien structuré lui-même, mais que je vous recommande si ces propos vous intéressent. Ce que j'aimerais dire, c'est que la théorie de l'évolution est vraiment faite de deux grands piliers différents. Un pilier dont nous avons entendu parler ce matin, qui est le transformisme, qui dit que les espèces simplement apparaissent par transformation d'autres espèces. Ce n'est pas Monsieur de Lamarck qui a proposé cette théorie, elle était présente bien avant, mais disons qu'il la formalise d'une façon qui devient accessible à beaucoup. Le transformisme, de façon intéressante, aujourd'hui peut être considéré comme démontré d'une façon scientifique, et on reviendrai peut-être là-dessus au cours de cette intervention. Je crois que plus personne actuellement, et même l'Église, comme il a été mentionné, ne met en cause le transformisme. Monsieur Charles Darwin, plusieurs années plus tard, lui propose un mécanisme pour passer d'une espèce à une autre. C'est là que se trouve la nature de sa théorie de l'évolution, qui est donc un mécanisme par lequel, suite à des modifications aléatoires, des nouvelles espèces sont produites par sélection du milieu, par le fait que ces espèces s'adaptent plus ou moins bien, on parle généralement en termes de fitness, s'adaptent plus ou moins bien à leur milieu et dès lors, elles sont sélectionnées pour y rester. Cette théorie de la sélection naturelle, comme elle est appelée aujourd'hui, je ne pense pas que Darwin l'ait lui-même appelée sélection naturelle d'ailleurs, repose elle-même sur deux grands piliers. D'un côté, la variation. C'est évidemment la question du comment. Comment est-ce possible de produire une espèce qui est différente d'une autre? Donc ça, c'est la question du mécanisme. Les organismes sont soumis à des variations aléatoires. Le deuxième grand pilier, c'est évidemment la sélection. C'est la question du pourquoi. Pourquoi tel animal, pourquoi telle espèce va survivre à cette variation alors que d'autres espèces ne vont pas survivre à cette variation? C'est la question que se pose actuellement la grande majorité des évolutionnistes. Pourquoi tel trait a été conservé? Quel est l'avantage que ce trait procure à cet animal, à cette espèce en particulier? Donc ce qu'il est important de comprendre dans le contexte d'aujourd'hui, c'est que le poids de la théorie de l'évolution repose pratiquement intégralement sur le deuxième pilier, sur la sélection. Et c'est pour cette raison que cette théorie est appelée la théorie de la sélection naturelle et non pas la théorie de la variation quelque chose. Pourquoi le poids repose-t-il sur le deuxième pilier? Eh bien simplement parce que les variations sont aléatoires. On a entendu le mot de hasard plusieurs fois ce matin. Les variations étant aléatoires, ce qui va produire l'espèce nouvelle, c'est bien sûr le mécanisme de sélection, non pas le mécanisme de variation. À partir de là, on arrive à une construction très lente, graduelle, dans laquelle chaque partie d'un organisme va être progressivement adaptée aux conditions du milieu. Et encore une fois, c'est de là que vient cette question presque unique du pourquoi chez les biologistes de l'évolution, alors que, évidemment, les biologistes du développement, et je reviendrai là-dessus dans quelques minutes, ne se posent que la question du comment et jamais la question du pourquoi, qui, bien évidemment, en sciences de la vie, est une question très difficile. Si l'on considère cette théorie de Darwin dans sa façon la plus orthodoxe, ce qui est généralement considéré comme le gradualisme, on considère qu'il y a un nombre infini d'intermédiaires, donc une espèce va produire une autre espèce en produisant toutes les espèces intermédiaires, que d'ailleurs nous ne retrouvons pas dans les collections fossiles, d'où cette idée de chaînons manquants, ce que nous appelons généralement des chaînons manquants, ce sont ces espèces qui ont dû exister, mais que nous ne voyons pas, que nous ne trouvons pas dans les collections fossiles. Les explications à ce manque, à l'absence de ces chaînons manquants, ont été proposées par plusieurs auteurs. Je pense qu'une explication qui est vraiment digne d'intérêt est celle proposée par Stephen G. Gould et Niels Eldridge dans les années 70, une théorie appelée équilibre ponctué, dans laquelle ces auteurs disent « La raison pour laquelle nous ne trouvons pas ces chaînons manquants, c'est que ces espèces intermédiaires ne sont pas restés suffisamment longtemps. » Donc ils introduisent la notion de temps. Si ces espèces restent l'espace de ne serait-ce que quelques millions d'années, eh bien il n'y aura pas suffisamment de temps pour que les fossiles de ces espèces soient suffisamment représentés de telle sorte qu'on les trouve avec une fréquence suffisamment élevée. D'où cette théorie des équilibres ponctués, disant que les espèces, l'évolution ne fonctionne pas de façon linéaire. C'est un processus qui est relativement chaotique. Pendant des centaines de millions d'années, on peut avoir des grandes stases où rien ne se passe. Et puis soudainement, sous l'action de peut-être de catastrophes climatiques, de météorites ou que sais-je, ce processus s'accélère et on a des espèces qui se créent, mais qui ne restent pas suffisamment longtemps pour laisser des traces fossiles. Cette théorie des équilibres ponctués de Stephen G. Gould, en fait, n'est pas exactement la version qui avait été proposée à l'origine. Pour ceux d'entre nous qui ont eu la chance d'en discuter avec Stephen G. Gould, Stephen G. Gould avait souffert d'une exclusion du cercle des évolutionnistes après sa proposition d'une théorie qui était un peu plus dure, qui était une théorie saltationniste, sur laquelle je vais revenir, dans laquelle il proposait, fidèle aux idées de l'école mériste anglaise, donc de Bateson, de Lancaster, que nous avons entendu tout à l'heure, dans laquelle il proposait que de vrais sauts pouvaient se passer dans l'évolution, et que peut-être une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas ces espèces fossiles est simplement qu'elles n'ont jamais existé. Et je reviendrai sur ce point. À l'autre extrême du gradualiste se trouvent des théories alors extrêmement minoritaires, que l'on appelle généralement des théories internalistes. Ces théories proposent que les systèmes en évolution le font sous l'effet de contraintes internes. Le mot « contrainte » est un mot important, pour ce que je vais dire. L'existence de contraintes internes à ces systèmes, ces contraintes peuvent bien sûr être de nature métaphysique, et on en a un très bon exemple dans ce qui a été mentionné ce matin, ou de nature génétique, et c'est cela qu'il va m'intéresser dans les quelques minutes qui me restent. J'ai eu trois fois l'occasion, en fait, de lire et de relire l'évolution créatrice. La première, il y a de nombreuses années, pendant mes études. La troisième, cet été, suite à l'invitation à ce colloque. La deuxième, suite à une publication extrêmement intéressante en 1989 par un collègue, Perret Alberche, qui malheureusement nous a quittés très jeune, qui était un paléontologiste ayant travaillé avec Stephen G. Gould au muséum à Harvard. Et en 1989, Perret Alberche publie un papier dans une publication dans un journal français appelé GeoBios, dont le titre « The Logic of Monsters »,« La logique des monstres, évidence pour l'existence de contraintes internes dans le développement et l'évolution ». Dans cette publication, il mentionne la chose suivante. I refer to this philosophical tradition as internalist. Donc, il parle de cette tradition internaliste. Cette approche, plutôt que de se focaliser sur des forces externes de l'évolution, c'est-à-dire la sélection naturelle, l'importance du milieu, mentionne le rôle des facteurs internes. Et il dit, les théories internalistes, minoritaires bien sûr, ont une très longue tradition en biologie de l'évolution et il cite toute une série d'auteurs, le premier étant Bergson, 1907, c'est là qui m'avait fait retourner à la lecture de cet ouvrage. Dans cet article, Perret Alberche se livre à une condamnation de ce qu'il appelle l'externalisme, c'est-à-dire l'évolution sous la conduite des forces extérieures, donc du darwinisme orthodoxe, de l'importance primordiale de l'environnement dans la modification des structures. En réaction, en fait, à la lutte qu'il menait contre les évolutionnistes extrêmement orthodoxes à l'époque, comme il les qualifiait, qui étaient Dobiansky, Ernst Mayr, etc., toute cette école du néo-darwinisme. Perret Alberche, en fait, donnait à Bergson un rôle de précurseur dans l'internalisme, un internalisme que Bergson propose face aux nombreuses impossibilités du tout externalisme. Et ces impossibilités, elles sont extrêmement claires à déceler lorsque l'on lit l'évolution créatrice. D'ailleurs, lui-même, comme il a été mentionné par mon collègue, fait référence à cette église mériste anglaise. Ils sont donc les premiers vraiment à proposer des sauts importants dans l'évolution. On a fait mention de Bateson. Personnellement, je pense que Ray Lancaster a eu une importance non négligeable dans cette idée de saut quantique dans la production d'une espèce. Cette impossibilité pour Bergson de souscrire totalement à cet externalisme darwinien est extrêmement bien illustré par ce problème de l'œil qui a été aussi mentionné dans l'intervention précédente. Bergson a deux grands problèmes lorsqu'il réfléchit sur l'évolution et sur le développement de l'œil. En fait, ce sont pas ses problèmes, ce sont des problèmes qui sont soulevés par Darwin lui-même dans son autocritique de l'origine des espèces, dans l'origine des espèces. Il dit oui, c'est très bien, mais il y a tout de même certains systèmes que je ne peux pas expliquer. Et l'œil en fait partie. Les deux problèmes que Bergson rencontre sont en fait les suivants. Premièrement, la convergence évolutive des yeux. Comment est-ce possible que des animaux aussi différents qu'un calamar, par exemple, et nous-mêmes, aient des yeux d'une fonctionnalité relativement semblable, qui, ma foi, sont construits d'une façon aussi relativement semblable, pas identique, bien sûr, alors que l'animal ancestral n'en avait pas? Comment peut-on imaginer une convergence d'une structure aussi délicate que l'œil? Alors aujourd'hui, on commence à comprendre ces questions de convergence évolutive, et dans le cas particulier de l'œil, beaucoup de travail a été fait sur ce système. On observe ce que l'on appelle une évolution intercalaire, et sans rentrer dans les détails, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on commence à voir une possibilité d'un cadre conceptuel. Si l'on se dit la chose suivante, dans l'animal ancêtre, existait une cellule qui possédait deux des caractéristiques de l'œil, c'est-à-dire l'information de départ, autrement dit l'information génétique qui dit « on va faire un organe sensoriel », et la dernière partie de la chaîne qui est la production d'une protéine qui est sensible par exemple à la lumière. Donc une chaîne extrêmement simple, une cellule qui est capable simplement de sentir la lumière ou de sentir une vibration qui est faite de deux compositions, de deux éléments. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, on ne fait qu'intercaler des étapes supplémentaires entre cette étape A et cette étape Z. L'intercalation peut être différente, mais le départ et l'arrivée seront toujours relativement identiques. C'est ce qu'on appelle de l'évolution intercalaire, et c'est ce qui vraisemblablement explique la convergence évolutive des yeux. Le deuxième problème de Bergson face à l'œil est un problème encore plus intéressant finalement, c'est celui de la coévolution des parties de l'œil. Bergson dit « Je veux bien admettre un darwinisme orthodoxe pour la modification par exemple de la rétine, mais à quoi servirait de modifier la rétine si la cornée n'est pas modifiée, si le cristallin n'est pas modifié, etc. etc. » Donc comment peut-on, dans une pensée darwinienne orthodoxe, expliquer l'évolution en parallèle de ces différentes parties? Malheureusement, l'évolution créatrice, comme on l'a entendu ce matin, vient un peu tôt, puisque ce problème est expliqué actuellement d'une façon très simple par les travaux de Spemann, qui suivent donc d'une dizaine d'années finalement, ces travaux sur l'induction, dans lesquels il montre que l'œil finalement n'est pas un assemblage de parties, mais un tout qui se développe d'une façon holistique. La vésicule optique va induire la cornée, qui elle-même va induire la rétine, qui elle-même va induire, etc. Donc il est bien évident qu'une modification dans une seule de ces parties va se répertorier sur les autres parties par des phénomènes d'induction morphogénétique que décrit Spemann, bien sûr, a posteriori, après la publication de l'évolution créatrice, comme vous le voyez sur cette image. Alors, laissez-moi parler brièvement de ces contraintes internes. Quelle signification peut-on aujourd'hui donner à cette notion de contraintes internes? Et ceci à la lumière des développements récents de la recherche en génétique expérimentale, je dirais en particulier dans le domaine de la génétique, mais également dans le domaine de la mécanique biologique ou le domaine de la morphogenèse, etc. Pour cela, j'ai besoin de passer quelques minutes pour vous expliquer la révolution conceptuelle qui s'est passée dans les années 80 et qui a permis, en fait, un début de compréhension de cette notion de contrainte interne. Cette révolution, elle démarre en 1985, c'est extrêmement récent, par une découverte qui va, je ne devrais peut-être pas dire qui va bouleverser, qui bouleversera car c'est une découverte tellement importante que l'on n'a peut-être pas encore pu l'intégrer totalement dans notre façon de penser, qui est l'universalité des gènes. On s'aperçoit en 1985 que tous les animaux de la création contiennent les mêmes gènes, des gènes extrêmement similaires. C'est la démonstration du transformisme. C'est une démonstration scientifique du transformisme. Oui, les animaux ont tous une parenté, c'est absolument clair. Quelques années plus tard, on s'aperçoit que non seulement les gènes sont conservés, mais les principes de fonctionnement de notre biologie, de notre génétique sont conservés. La façon dont ces gènes interagissent, la façon dont ces gènes vont faire des signaux à des cellules différentes, etc., etc. Et puis, à peu près 10 ans plus tard, découverte que finalement, tout cela n'est pas très étonnant puisque les génomes sont pratiquement universaux. Alors, je ne dirais pas que notre génome, c'est-à-dire l'ensemble de nos chromosomes, est identique au génome d'un poisson, mais sachez qu'il y a des parties entières de notre génome, des dizaines, des quinzaines de gènes qui sont organisés sur nos génomes, sur notre génome, exactement de la même façon qu'ils le sont sur un chromosome d'une truite ou peut-être même d'un insecte. Alors tout ceci a conduit à un changement de paradigme extrêmement important, qui est que la question que nous nous posons aujourd'hui n'est plus du tout la question que se posait Bergson. Bergson se demandait comment peut-on faire deux yeux à partir d'animaux très différents. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est comment peut-on faire des animaux différents en partageant autant de notre matériel génétique. C'est un renversement de questionnement total, c'est un changement de paradigme qui, me semble-t-il, va être extrêmement prolifique du point de vue conceptuel dans les années à venir. Alors je vous montre là un petit exemple qui n'est très peu visible, mais d'un gène qui est exprimé dans une nageoire de poisson ou dans un membre de tétrapode, comme nous le sommes. Ce sont les mêmes gènes qui fabriquent les nageoires des poissons et nos bras et nos jambes. Et la question, bien sûr, est mais comment est-ce possible? Comment les mêmes gènes peuvent-ils arriver à des structures tellement différentes? Alors, laissez-moi vous dire que la petite mouche du vinaigre que vous voyez sur les pommes blettes dans votre cuisine contient à peu près 15 000 de ces gènes. Les derniers résultats du séquençage humain indique, toujours à la baisse, un peu comme la croissance, que nous avons probablement entre 20 et 22 000 gènes. Autrement dit, il y a pratiquement moins de 25% en quantité de différence entre les gènes que l'on trouve dans un ver de terre et les nôtres. Alors la question, bien sûr, c'est est-ce que cela est suffisant pour expliquer la différence de complexité qui existe entre une petite mouche du vinaigre et nous-mêmes, car en effet, il y a tout de même un niveau de complexité qui n'est pas seulement le niveau cérébral, qui n'est pas seulement au niveau de la conscience, ne serait-ce que dans le niveau du métabolisme et de la physiologie, qui est très très nettement supérieur. Et la réponse est non. Donc nous devons trouver les raisons pour lesquelles, avec pratiquement le même nombre de gènes, nous faisons quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et cette raison, elle est extrêmement simple. Il n'y en a pas 36 000. Quand vous voulez faire plus avec la même quantité, il faut donner à chaque gène plus de travail. Et c'est donc ce qu'a fait l'évolution. Elle a donné à chacun de nos gènes beaucoup plus de travail. Alors ceci, bien sûr, a un coût extraordinaire. C'est que chaque gène devient multifonctionnel. Un gène qui, auparavant, par exemple, chez une bactérie, a pour mission de produire une enzyme, eh bien, chez les vertébrés supérieurs, cette enzyme va non seulement servir un endroit particulier, mais 2, 3, 10, 15 endroits particuliers pour produire des réactions différentes. Alors, je vous montre un second exemple ici d'un petit foetus de souris. Ce que vous voyez là, pour ceux qui peuvent voir cette image, c'est en bleu, alors peu importe, mais en bleu, vous voyez en fait tous les endroits dans lesquels un seul gène du développement, donc un gène qui est nécessaire à notre développement, un seul de ces gènes fonctionne. Et vous voyez qu'il y a du bleu partout. Ce gène fabrique des doigts, des morceaux d'intestin, de la face, des follicules pileux, le tube neural, la moelle épinière, les côtes, les vertèbres, il est partout. Alors évidemment, cela pose un gros problème d'un point de vue évolutif. Si ce gène est partout, comment évoluer les doigts, par exemple? Si l'on veut changer les structures de nos doigts en modifiant l'activité de ce gène, eh bien vous voyez le résultat que cela donnera. On changera les doigts, mais on changera également les intestins, la face, les follicules pileux, la moelle épinière, etc. C'est ce que l'on appelle en génétique la pléiotropie ou la multifonctionnalité. Alors pourquoi je vous raconte ces histoires un peu compliquées? Eh bien, laissez-moi simplement faire le raisonnement point à point pour essayer de vous faire comprendre quel est l'impact de cette découverte. Si les génomes sont conservés et si l'on doit faire plus, nous allons donc rajouter de la fonctionnalité aux gènes. Si les gènes deviennent multifonctionnels, pléiotropiques, cela va inévitablement mener à une complexification des chaînes de régulation, des protéines, des petites séquences que l'on va trouver sur notre ADN pour contrôler l'expression de ces gènes. Et tout cela, bien sûr, va induire une résistance à la variation. La variation aléatoire sera tolérée, bien sûr, mais sera soit non visible, soit exclue. Cela veut dire que seules quelques solutions vont devenir possibles au fur et à mesure de la complexification des animaux. C'est une réflexion qui est extrêmement difficile à internaliser. Cela signifie en fait que le plus les animaux deviennent complexes, le plus leur développement devient contraint et par là même, le plus difficile devient de les faire évoluer. Mais par contre, en cas d'évolution supposée, alors le saut n'en serait que plus grand. Car seul un grand chamboulement pourrait conduire à une forme nouvelle. Alors que chez les animaux extrêmement simples, par exemple chez les bactéries, on n'a pas ce problème, on peut extrêmement facilement modifier l'activité d'un gène. La bactérie sera peut-être résistante à un antibiotique, mais ça ne va pas changer, en gros, la forme et la vie de la bactérie. Donc on assiste en fait aujourd'hui à un transfert de la force fondamentale de l'évolution, de la variation, de la sélection sur la variation. Tout le poids que Darwin mettait sur la sélection naturelle, chez les animaux complexes, probablement se retrouvera dans quelques années sur leur variation et non pas sur la sélection de ces variations. Puisque seules quelques solutions sont probables, il est vraisemblable que, le cas échéant, la force de l'environnement, le poids de la sélection naturelle ne serait pas absolument décisif. Donc la variation n'est plus infinie, mais est dictée par les contraintes internes du système. Ce qui revient à dire qu'un système vivant complexe ne peut pas varier de façon aléatoire. On ne peut pas produire, on ne peut pas donner à la sélection naturelle toutes les formes possibles et imaginables afin que celle-ci nous sélectionne pour que nous puissions continuer dans notre évolution. Ce qui nous fait passer d'une théorie de la sélection naturelle à une théorie de la variation contrainte. Alors j'ai résumé ça sur des schémas qui ne sont pas visibles, avec d'un côté l'internalisme, cette théorie internalisme, dans laquelle la variation a évidemment le rôle principal, de l'autre côté l'externalisme, la sélection naturelle, ces théories dans lesquelles la sélection a le rôle principal. Et en fait, je proposais ces schémas pour vous dire que finalement, ce ne sont pas des théories qui sont antagonistes, bien sûr. Comme je le disais, l'internalisme est une façon d'évoluer qui est liée aux organismes complexes. L'externalisme est une façon d'évoluer qui est probablement liée aux organismes simples. Donc en passant d'organismes simples à complexes, c'est-à-dire le long de notre évolution, on passe en fait d'une structure évolutive externaliste à une structure évolutive internaliste. Et c'est ça qui est qu'on fait référence en termes de transitionnisme, c'est-à-dire une théorie de l'évolution dans laquelle les organismes extrêmement simples, les bactéries par exemple, les levures, peuvent toujours évoluer à grande vitesse en modifiant très peu de choses et en produisant de façon aléatoire énormément de formes différentes, pensez aux virus par exemple, alors que plus les animaux deviennent complexes, plus cette variation aléatoire devient impossible, plus le système devient contraint, plus on se dirige vers une structure internaliste, plus les contraintes nous empêchent de varier de façon aléatoire. J'aimerais terminer en revenant quelques minutes sur cette confusion et qui est très visible dans l'ouvrage de Bergson et qui était mentionné par M. De Bru, entre la construction, l'ontogenèse, et l'évolution, la phylogenèse. Il est vrai qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e, on trouve pas mal d'ouvrages en fait, dans lesquels l'évolution englobe à la fois le développement et l'évolution. Une confusion qui, en grande partie à cause de l'influence de Ernst Haeckel et des théories récapitulationnistes. Je trouve une très belle phrase de Bergson qui dit que la route que nous parcourons dans le temps est jonchée des débris de tout ce que nous commencions d'être, de tout ce que nous aurions pu devenir. C'est une phrase extrêmement ambiguë qui a en tout cas trois niveaux de réflexion, un niveau philosophique, mais un niveau ontogénétique et un niveau phylogénétique, bien sûr. Et ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est que le développement et l'évolution sont des disciplines qui sont extrêmement différentes, dans le fond, et que cette confusion devrait cesser. Le développement, bien sûr, est une science qui est basée sur le postulat de la récurrence. C'est parce qu'à chaque génération, on postule que le développement se passera comme il s'est passé à la génération précédente, qu'on peut l'étudier, on peut en faire des modifications. C'est la base de la mécanique expérimentale, de Entwicklungsmechanik, donc de l'embryologie causale. Il existe une possibilité de démonstration de ce qui se passe. Alors que l'évolution, c'est une science qui est basée sur le postulat de la non-récurrence. C'est la définition même de l'évolution. C'est que rien ne se répète jamais. Donc c'est un processus qui a une structure linéaire et l'on a uniquement une possibilité d'une explication de ce qui s'est passé. Et le problème, bien sûr, c'est d'intégrer ces phénomènes récurrents dans ce processus linéaire, ce qui est extrêmement délicat, comme vous le savez, d'autant plus que les biologistes n'ont de loin pas réglé leurs problèmes avec le temps, de la même façon que les physiciens ont pu le faire, et que nous avons énormément de peine à interagir avec cette notion de temps en sciences de la vie. Alors, pourquoi je mentionne cette différence? Parce que, évidemment, le développement a été... Les mécanismes de développement, les théories du développement ont été remises en cause d'une façon extrêmement importante ces 30 dernières années, ou même ces 100 dernières années, en fait, depuis l'apparition de l'évolution créatrice. Alors que l'évolution, finalement, lorsque l'on regarde un peu en arrière, on s'aperçoit que finalement, pas grand-chose n'a changé, si ce n'est l'introduction d'une mathématique de l'évolution par le néo-darwinisme, donc de considérer l'espèce plutôt que de considérer l'individu. Et on peut se poser la question du pourquoi. Pourquoi l'évolution, la pensée évolutive, en fait, a relativement peu évolué elle-même depuis une centaine d'années? Évidemment, une réponse bien normale, c'est que pour comprendre les mécanismes de l'évolution, il faudra comprendre les mécanismes du développement. Donc l'une suit l'autre, puisque l'évolution morphologique a son effet sur le développement. Ce n'est pas un adulte qui va soudainement évoluer. C'est un embryon qui va se développer d'une façon différente. Donc il faut comprendre le développement pour comprendre l'évolution. Mais je pense qu'il y a une autre raison à cet obstacle de réflexion sur la théorie de l'évolution, qui est plus culturel et qui est le suivant, c'est que la théorie de l'évolution de Darwin, donc les théories externalistes, gradualistes, est une théorie qui est à la fois politiquement et religieusement extrêmement correcte. C'est une théorie qui explique la perfection humaine, finalement, puisque chaque partie de notre corps a la possibilité d'évoluer de façon séparée. En rajoutant sur cette théorie des centaines et des centaines de millions d'années, donc en donnant au temps une limite non limitée, en fait, on arrive à proposer que chaque partie de notre corps peut évoluer de façon séparée. D'où l'atteinte de la perfection. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cette théorie est très peu contredite, et que cette théorie n'a pas été vraiment attaquée d'une façon intelligente depuis pratiquement 60 ans. L'idée de contrainte interne, bien sûr, est extrêmement délicate pour la théorie de l'évolution, car elle engendre, elle suggère l'idée d'équilibre génétique, plutôt l'idée de perfection. C'est une évolution qui se passe à un niveau extrêmement holistique, c'est au niveau de l'organisme. Chacune de nos parties est imparfaite, rien ne peut être parfait, puisque rien ne peut évoluer séparément. Mais l'ensemble, finalement, n'est pas si mal. Donc nous sommes une collection d'imperfections. Et ceci est une réflexion, en fait, qui est encore extrêmement difficile à développer dans notre culture. Et puis finalement, c'est moi terminer en disant que l'idée de contrainte interne, l'idée de variation dirigée, en quelque sorte, mais dirigée par des contraintes internes de nature non métaphysique, bien sûr. Cette idée de variation dirigée de notre contenant suggère inéluctablement l'existence de variations dirigées, de contraintes dans notre contenu, finalement. Si nous ne sommes pas libres d'évoluer de façon aléatoire, sommes-nous libres de penser de façon aléatoire ? C'est-à-dire, est-ce que notre contenu n'a pas également un impact sur notre contenant? Est-ce que cette idée de contrainte interne ne pourrait pas être prolongée sur notre contenant? C'est une réflexion qui, là encore, est extrêmement difficile à développer, qui est très intéressante d'ailleurs, et dont on trouve en fait quelques éléments dans le livre d'Henri Bergson, qui touche à la créativité et au libre arbitre. Voilà, j'aimerais vous remercier de votre attention et puis peut-être discuter un peu de ces choses bien intéressantes.
Vous venez d'entendre Denis Duboule de l'Institut dans le cadre du colloque de l'Académie des sciences morales et politiques consacré en septembre 2007 au centenaire de la parution de L'évolution créatrice de Henri Bergson.